Bonjour et bienvenue dans mon émission. Je m'appelle Christina et je suis fan de développement personnel. À travers cette émission, je souhaitais te partager mon expérience, mon opinion et des anecdotes autour de l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et d'autres sujets liés au développement personnel. Il s'agit d'un sujet qui monte énormément dans la conscience collective et il est très facile de trouver des définitions autour de ces sujets. Mais surtout, ce que je souhaite partager, ce sont plutôt des expériences en référence avec du vécu, mais également en lien avec des références bibliographiques qui m'ont beaucoup enrichi. J'inviterai également des personnes qui ont des expériences uniques et enrichissantes à partager autour de ce sujet. Alors, à très vite dans le prochain épisode! Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'interviewe Sandrine, que j'ai rencontrée sur les réseaux, nous avons une amie en commun. Et je suis très, très, très honorée de pouvoir partager cet épisode avec vous et avec elle. Donc, je vais la laisser se présenter. Bonjour à toi, Sandrine.
Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être là. Moi, je suis multipassionnée. C'est comme ça que maintenant j'aime me décrire parce que je fais plein de choses, un peu touche à tout. Donc, je suis auteure, conférencière, je suis aussi modèle pour une application de sport adaptée et coach beauté, bien-être et bien vieillir, entre autres. J'ai besoin de faire plein, plein de choses, sinon je m'ennuie très vite.
Oui, c'est génial cette présentation. On a parlé un peu en aparté, comme je vous dis toujours, en aparté, on a toujours des petites pépites. Donc là, je vais un petit peu enchaîner sur qui es-tu? Donc, dans le sens où on a évoqué ton parcours de façon brève, mais là, tu vas un petit peu nous détailler. Et notamment, petite surprise, tu as écrit un livre. Donc, je te laisse nous guider dans ce que tu veux nous parler.
Ce livre, je l'avais en tête depuis déjà quelques temps quand même, quelques années on va dire, mais j'avais ce petit syndrome de l'imposteur, mais t'es qui Sandrine, cette légitimité, t'es qui toi pour écrire un livre, etc. Et puis vouloir écrire un livre et l'écrire et le faire publier est autre chose. Donc moi, il faut savoir que voilà, on aime bien mettre les gens dans des cases. Moi, on m'a mis dans une case, je suis hyperactive, TDAH, enfin bon, etc. Et je pars vite dans tous les sens. Donc moi, j'ai besoin d'être structurée. Et c'est une rencontre sur les réseaux avec Meili Chen. Et on a discuté, etc. Donc c'est Meili qui m'a accompagnée pour écrire ce premier livre. Ce premier livre, ça veut dire qu'il y en a un deuxième ou il y en aura d'autres. Et bien sûr.
Surprise.
Donc, un livre qui s'est écrit très. Très rapidement, très facilement, parce que je l'avais déjà quand même un petit peu mûri dans ma tête. Et puis surtout, c'est un récit autobiographique qui a pour poids le fil conducteur. Alors, le poids de ma première vie s'appelle, hein, c'est, voilà, le titre, je l'ai choisi. Il prend vraiment tout le poids de ce livre, justement, donc, parce que je parle évidemment de mon parcours, je parle des traumas de l'enfance, je parle de mes problématiques de poids, parce que je galère avec mon poids depuis des années, des années, des années. Je parle de mes différents combats, donc de l'obésité, je parle de la chirurgie bariatrique, parce que c'est aussi mon chemin. J'ai eu un anneau en 2006 et que j'ai gardé 16 ans. J'ai eu des complications. Je devais avoir une sleeve et puis ça a été annulé au dernier moment parce que j'avais des problèmes de reflux. Finalement, on m'a dit un bypass. Et puis moi, j'ai eu tellement peur. J'ai dit non. La malabsorption me traumatisait totalement. Et puis, bon, le cheminement d'avoir rencontré des personnes qui m'ont accompagnée, d'avoir des retours de personnes qui ont vécu cette opération avant moi, on fait que j'ai sauté le pas et que là, ça fait 2 mois et demi que je suis bypassée et que tout va pour le
Et
mieux
ça se
dans le
passe bien.
meilleur.
Tant
Allô?
mieux.
Suite opératoire idyllique, zéro douleur. Alors même moi, je n'en reviens pas encore. Mon chirurgien, je l'aime d'amour.
Ah,
Je l'aime.
génial.
Ce qu'il a fait, mais en tout cas, je n'ai pas eu la moindre douleur. Je mange correctement, je mange même des quantités hautes, je bois à peu près correctement, peut-être pas assez, mais bon, c'est déjà pas si mal. Et là, en 2 mois et demi, j'ai perdu 20 kilos. Donc déjà, ça change la donne. Je me sens bien, beaucoup mieux déjà, parce que je ne suis plus
Tu te sens
essoufflée,
mieux
parce
dans
que
ton corps, dans ton... Voilà.
mobile, etc. Et surtout, tout ce que je pensais, les peurs, les choses qui me traumatisaient, bah, n'ont pas eu lieu. J'étais persuadée qu'en fait, j'allais être épuisée. Je pète le feu depuis J plus 1. Ah. J'étais persuadée, excusez-moi, glamour, mais bon, hein, ça fait partie de ces opérations. Je pensais que j'allais avoir la diarrhée H24. C'était un
Ça
truc
va.
de mal. Et tout va bien.
C'est
Donc, je suis
super.
contente d'avoir fait ça. Et puis surtout, c'est que ça me permet aussi de rencontrer plein de gens formidables. Parce que je suis aussi sur des groupes, parce que je trouve que l'entraide, c'est super important, parce qu'on
C'est
est
pas
tous des...
anodin psychologiquement, en fait, ce genre d'opération, et je pense qu'on a besoin d'un suivi.
Surtout, c'est qu'on nous sommes malades. L'obésité, c'est une
Oui.
maladie plurifactorielle.
Tout à fait.
Donc, après, quand on est opéré, quand on a perdu poids, on est toujours malade d'obésité. On est malade à vie. Simplement, on n'a plus de symptômes. C'est juste la différence que la chirurgie bariatrique, et c'est un truc qui est énorme, et moi j'ai énormément de gratitude. Franchement, je suis très très reconnaissante parce que tout va bien et que ça change ma vie. Et c'est que le début, parce qu'en 2 mois et demi déjà, même au niveau de comment je me sens, de comment je me projette, comment ça m'a réparé mon estime de moi, je veux dire, à un moment, j'étais morte à l'intérieur.
Et qu'est-ce qui a
Alors,
fait que justement tu sautes le pas pour cette chirurgie?
parce que j'étais remontée quand je me suis fait opérer de mon anneau en 2006, je faisais 140 kilos. J'avais quasi doublé mon poids suite aux violences que je subissais de la part de mon ex-mari. Donc voilà, mon ex-mari m'a connue à 69 kilos, je me suis fait opérer à 140. Alors j'ai enchaîné 3 grossesses aussi à la suite, mais si les grossesses m'ont fait prendre du poids, c'est parce que en fait.
T'es mal dans... T'avais déjà un mal-être.
Ah non, mais c'était un chaos,
Oui,
c'était
t'avais...
bizarre, c'était violence conjugale,
Oui, bien
c'était
sûr.
juste
Voilà, je voulais qu'on
insupportable.
en parle après.
C'était juste invivable. Et en fait, c'était ma façon, maintenant je l'ai analysé avec le recul, avec le travail que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi. En fait, c'était ma façon de crier au monde, mais vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas? Parce que moi, j'ai un caractère. Bon, j'ai un fort caractère, j'ai une grande bouche, je suis plutôt rigolote, je déconne tout le temps, je suis
Là,
quelqu'un de
t'étais
très.
effacée.
Ben, en fait, c'est les gens, en fait, ouais, Sandrine, elle est forte, on s'inquiète pas pour elle, ou des choses comme ça. Sauf que moi, ben, du coup, comme il y avait des choses que j'arrivais pas à en parler, j'arrivais pas à verbaliser, parce que c'est toujours très difficile pour les victimes de violences conjugales, parce qu'on a honte, lorsque la honte, elle doit changer de côté, hein, etc. C'est très, 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 très compliqué. Et j'en ai parlé également dans mon livre, donc mon premier livre qui s'appelle Le poids de ma première vie, parce que voilà, le poids physique, mais le poids émotionnel, le poids des traumas, oui, où ça m'a vraiment énormément abîmée. Mais, alors moi, enfin, je crois en la résilience, ça se travaille, ça se développe,
Exactement.
ça se travaille. Et surtout, je suis persuadée. Et que même si on n'a pas de belles cartes, on peut faire une très belle partie.
Oui, tu parles de résilience, c'est aussi une des choses que j'évoque beaucoup dans certains podcasts. Et toi, comment tu as trouvé la force avec, je pense que tu as dit, 3 grossesses en 3 enfants. Est-ce que c'est un peu eux qui t'ont permis de reprendre ton pouvoir, ou t'as trouvé toi-même cette force pour peut-être quitter cette relation? Je ne sais pas, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ta reprise de confiance et ta reprise de pouvoir?
Alors après, tu sais, on peut encaisser énormément de choses. Bah moi, tu sais, il y a des choses que c'était pour moi très, très important. Moi, le plus important, c'était ma petite famille. C'était pas la carrière à l'époque. Tu vois, c'était après, bon, on a nos blessures, on a nos traumas de l'enfance, etc. Moi, mon père est décédé quand j'étais petite. Donc, j'avais 18 mois quand il est mort. Donc, je ne l'ai pas connu. Donc, c'était une faille, tu vois. Et c'était très important, le papa, les enfants. Donc, je m'étais conditionnée dans ma tête qu'il fallait que
Que t'aies une
j'encaisse
vie de famille.
jusqu'à temps que les enfants soient autonomes, quoi.
Ah, je comprends.
Et surtout, c'est l'erreur à faire.
Bah,
Ne
bien
faites
sûr,
ne...
on est d'accord.
Parce que ça fracasse les enfants, ça
Bien sûr,
abîme les...
totalement. Parce que ce sont des éponges et en fait, voilà, malheureusement, ils encaissent.
Même si j'ai... parce que... parce que j'ai eu beaucoup de retours sur les violences conjugales par rapport au chapitre que j'ai de mon premier livre, et de tous les échanges que j'ai eus lors de séances de dédicaces, des choses comme ça, de retours de femmes qui disent « Sandrine, tu as eu la chance de raconter ton histoire ». Moi, je sais la puissance de la libération. L'écriture est très libératrice, de libérer sa
Exactement.
parole.
Je suis entièrement d'accord avec ça.
J'ai deux combats aujourd'hui, l'obésité, parce que c'est mon chemin, voilà, etc. Et que l'obésité, ce n'est pas juste parce qu'on mange trop et qu'on ne bouge pas ses fesses. Hein, parce que, voilà, c'est une maladie, comme j'ai dit tout à l'heure. Et les violences conjugales. Donc, en fait, là, je suis en train d'écrire un deuxième livre parce que suite à une séance de dédicace, j'étais, j'ai dit, mais non, mais je ne peux pas les laisser comme ça. J'ai eu deux, trois nanas qui m'ont dit, mais wow, toi, tu as pu raconter ton histoire. Oui, c'est vrai, c'est un investissement que j'ai fait parce que j'ai pris un coaching pour me structurer. J'ai investi, voilà, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et c'est tellement libérateur que je me suis dit, non, je veux leur donner une voix à ces femmes. Et c'est comme ça que bah, dès le lendemain, j'ai fait, oh, bah, c'est parti pour un autre livre. C'est pas prévu, hein, mais vraiment pas. Voilà, là, je suis dessus et je suis très contente parce que j'ai
C'est
peut-être
aussi
témoigné.
te permettre de reprendre, excuse-moi, je te coupe, mais reprendre confiance en toi parce que finalement, tu vois quel impact ça a d'avoir repris ton pouvoir et la grâce que tu as envers toi-même de te dire je l'ai fait, j'ai passé un cap, j'ai fait un step par step et finalement j'avance et waouh, ce que j'ai accompli, ça aide d'autres personnes. Donc c'est aussi une reprise de confiance en soi, de se dire waouh, on est utile,
C'est une reprise
on
de confiance.
inspire.
Clairement, c'est surtout, c'est que maintenant, c'est même devenu une mission, on va dire. Déjà,
Exactement. On en a parlé avec Maëlie d'ailleurs, on a parlé de mission de vie, mais dire, voilà, on en a parlé aussi.
moi, en laissant briller ma lumière, ça donne de la force à d'autres. Si moi, je peux le faire, elles aussi, elles peuvent le faire. Moi, j'ai été dans le noir le plus total. Comme tu disais tout à l'heure, oui, mes enfants, sans mes enfants, je serais sous terre depuis des années. Si j'ai tenu le coup, si je me suis relevée, si je me suis battue, si je m'en suis sortie, c'est grâce à mes enfants. Il y a une phrase que j'ai mise qui a impacté énormément de mes lecteurs quand je dis que je leur ai donné la vie, mais je leur dois la mienne.
C'est beau ce que tu as écrit et c'est beau ce que tu dis. C'est vrai,
Ouais.
il y a beaucoup de femmes qui restent dans des relations. Alors, des fois, elles ont les enfants, elles se disent, oh, je reste pour les enfants. Et d'autres qui, finalement, à force de voir l'impact que ça peut avoir sur leurs enfants, se disent, mais en fait, je ne me respecte pas quelque part. Mais si je ne me respecte pas, comment mon enfant peut me respecter? Parce qu'après, du fois, de par effet miroir, peut-être que ton enfant va prendre ce modèle-là comme un modèle normal, en fin de compte. Tu vois?
Surtout, ce qui est très dangereux, là, tu sais, je me suis, pour mon deuxième livre, je me suis énormément documentée, donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup, me suis formée, etc. Et donc, notamment beaucoup à la conjugalité et à la parentalité, parce que quand il y a les conjugales, ça s'imbrique dans tout ça. Et surtout que quand on est enceinte, ce sont des périodes qui sont majorées, etc.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, j'en parle pas beaucoup, mais je sais que j'ai vécu
Ah
certaines choses qui n'étaient pas vraiment géniales pendant ma grossesse non plus.
oui. Comment dire, on est plus vulnérable, mais c'est pas que ça. C'est parce qu'en fait, il se joue un truc, c'est que le couple ne va plus, on va plus être deux, on va être
Les
trois.
trois.
Et les hommes, il y a certains qui ont du mal avec ça parce qu'ils vont perdre leur place et plus avoir toute l'attention, tu vois. C'est
Exactement.
des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est Ernestine Ronai, Jules Durand et Karen Saldier, qui est psychologue, qui ont beaucoup écrit là-dessus, justement, sur la conjugalité, etc., et la parentalité. Et d'ailleurs, je suis très contente parce que Ernestine Ronai a accepté de témoigner. Donc, dans mon prochain livre, c'est des témoignages d'intimes et de professionnels qui luttent contre les violences conjugales.
Wow.
Donc, c'est franchement, c'est un cadeau phénoménal qu'en voulant donner la parole aux autres, aux femmes, aux anciennes victimes, aux survivantes, c'est comme ça que je les appelle, bah en fait, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Alors, il y a eu un truc qui a été assez violent pour moi, parce qu'avec tout le travail de recherche, avec toutes les discussions que j'ai pu avoir, avec toutes les choses, en fait, je me suis rendu compte que moi, j'ai toujours dit que j'avais vécu 4 ans de violence conjugale, parce que je suis restée 4 ans avec mon ex-mari. Et c'est où il y a eu des violences physiques. Après, sauf que non, en fait, sauf que les violences conjugales, elles ont perduré pendant plus de 21 ans, parce que ça a été de la violence psychologique, ça a été de la violence économique. Alors oui, il ne m'a plus touchée, parce qu'il sait très bien que s'il me frappe, je n'ai plus peur de lui, je porterai plainte sans réfléchir. Donc là-dessus, je sais que jamais il me retouchera. En fait, les gens se permettent. Alors, il y a un truc maintenant que j'ai compris aussi qui peut être difficilement compréhensible pour quelqu'un qui est en plein dedans, parce que moi, je ne l'aurais pas compris il y a 20 ans. Mais en fait, c'est aussi de notre responsabilité. En fait, en ne restant plus dans le statut de victime, on ne laisse pas la place au bourreau
Oui,
d'exister. Tu
entièrement
vois?
d'accord avec ça. Mais c'est ça, c'est quand on fait des recherches, on comprend le système. Mais c'est aussi ce que des personnes ne comprennent pas, qu'il y a aussi ce côté d'emprise. Des fois, en fait, il y a beaucoup de jugement des gens qui disent, mais en fait, elle est bête ou elle fait exprès. Mais en fin de compte, c'est plus fort que ça, en fait. Surtout quand c'est de la violence verbale et la psychologique, la personne en face de toi est rentrée dans ton cerveau et tu as engrangé des choses. En pensant que c'était la vérité, puisque c'est sa vérité il t'a fait intégrer. Et au final, c'est pour ça qu'on sait que les personnes, elles restent et que d'autres ne comprennent pas, en fait, parce qu'ils sont extérieurs à ce cercle victime, bourreau, sauveur, tu vois?
En fait, avant qu'il y ait de la violence physique, il y a forcément eu de la violence psychologique.
Psychologique, on est d'accord.
Voit que oui, je ne suis pas allée. Justement, j'avais participé à un colloque tu sais, au mois de novembre avec la journée des violences faites aux femmes. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place à cette période-là. Et un colloque était très intéressant avec une psychologue et j'ai beaucoup aimé son approche. Elle nous a fait une conférence, donc juste du coup sur l'emprise, mais en tant que système. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et en fait, le bourreau comme la victime, ça nourrit des choses chez chacun des deux, tu vois. Il y a les fausses croyances, il y a les blessures, il y a tout ça. Et qu'en fait, ça match, on rencontre deux choses, c'est ça qui match. Alors, ça ne veut pas dire que dans le bon sens, mais je veux dire, c'est ça. Donc, c'est un système. C'est pas juste, oui, voilà, mais elle aime ça, pourquoi elle y retourne? Non, déjà, une femme qui est sous emprise, elle n'a plus, elle peut pas réfléchir
Elle peut
correctement.
pas, mais non, puisque en fait elle vit dans la crainte perpétuelle et dans le regard de l'autre.
Et puis surtout, c'est qu'il y a un travail de ça phénoménal. Tu parlais d'estime de soi, mais on n'a plus d'estime de soi, il n'y a plus de
Totalement.
soi, y a plus de confiance en soi, il n'y a même plus d'amour de soi. Il y a un tel dénigrement, enfin, c'est un truc, c'est phénoménal. Donc c'est un travail qui va vraiment mais tuer la personne de l'intérieur. De toute façon, c'est des vampires énergétiques, hein.
C'est ça. Et en fait, il y a aussi ce. Alors, je te disais que j'interviewais aussi un coach en neurosciences et qui aide à te libérer de tes traumas. Donc, on parle de trauma. Forcément, c'est difficile à dire et à intégrer pour certaines personnes, se dire qu'en fait, ce qu'on a attiré dans cette relation-là, c'est aussi parce qu'on a ressenti des vécu des choses dans notre enfance ou dans nos, ou voilà avant notre adolescence qui ont permis qu'on attire ce genre de personnes et qu'on se manque d'estime déjà et peut-être qu'on n'en avait déjà pas en fait ou moindre mais ça on a attiré parce qu'on vibrait ça quelque
Ah oui,
part
on attire ce qu'on vibre, hein, tout simplement. Alors,
tellement.
c'est pas pour souvent ça. Oh, mais
C'est
non,
pas tout
mais
le
si.
temps, ouais, c'est ça. Moi, ce que je trouve génial, c'est que on vient d'apprendre à se connaître et qu'on est tellement en accord. C'est vrai, hein? Là, je trouve ça exceptionnel, cette synchronicité où tu es venu vers moi et que tu m'as dit les deux sujets sur lesquels tu voulais parler. J'ai dit, mais waouh, c'est trop, trop génial que l'univers envoie juste une personne comme ça. Et en plus, bon, ok, on a mais il est en commun. Mais je trouve ça génial que tu sois venu vers moi pour parler de ces deux sujets. Pour peut-être embrayer sur, on a parlé d'estime de soi, on a parlé de. Bah, j'ai envie de parler de l'entourage là. Comment toi, par rapport à ce que tu as vécu, est-ce que tu avais un entourage qui te permettait justement d'essayer de level up, comme on dit, voilà, de remonter un peu en niveau, ou est-ce que c'était un peu compliqué, tu t'étais isolée? Comment tu veux, enfin, qu'est-ce que tu veux nous dire de ça?
Bah déjà, souvent, il y a le vide qui est fait. On isole toujours les victimes. Hein. Donc, moi, forcément, ma famille n'est pas en région parisienne. Donc, non, non, moi, je ne sortais plus. Je n'avais plus spécialement d'amis. J'avais arrêté de travailler. Donc, c'était très, très compliqué. J'en ai pas parlé à. Dans ma famille, il y avait ma sœur qui savait. Ma mère, j'en ai jamais parlé. Je crois pas qu'elle soit au courant. Enfin, j'en avais jamais parlé. Moi, ce qui m'a aidée, en fait, j'ai craqué quand j'étais enceinte de mon fils. Donc, et c'est une. C'était, je crois, au second trimestre. Donc, c'était ma deuxième grossesse et j'ai craqué rendez-vous gynéco. J'en pouvais plus. Je pouvais plus. C'est un moment, et c'est là que j'ai parlé pour la première fois des violences. Donc, après, elle, la psy m'a suivi longtemps. Bon, ça passait parce que c'était dans le cadre de la grossesse. Donc, du coup, mon ex-mari ne se plaît pas, ça ne tiltait pas, etc. Et puis après, maintes fois, j'ai voulu partir. Hein. Avant cette grossesse, j'ai déjà essayé de partir. Et puis, bah, je ne savais pas où aller. Quand on me disait, bah, faut faire le 115 avec un bébé, bah, non, bah, je rentrais
Plus
chez moi.
le premier enfant.
Voilà. Et bah, je
Qui
rentrais
était
chez
peut-être
moi.
en bas âge aussi, quel âge a le premier?
Quand j'ai essayé de partir plusieurs fois, mais je savais pas, je travaillais plus, je ne savais pas où aller, je ne savais pas où aller. Et quand me disait le 115, bah non, je rentrais chez moi, je baignais ma fille, je la faisais manger, elle dormait au calme, au propre. Et voilà. Puis en fait, après, c'est le jour de mes 30 ans. C'est un moment, c'est la fois de trop. En fait, parce que moi, il avait été. En fait, la chance que j'ai, moi aussi, c'est que j'ai été entendue à chaque fois que enfin, j'ai porté plainte deux fois. Et moi, j'ai été entendue les deux fois, il a été condamné. Parce que je sais qu'il y a des femmes, c'est plus compliqué, elles ne sont pas entendues, la justice, il y a des choses qui ont quand même bien avancé, mais il y a encore des choses difficiles. Nous, moi, j'habite dans le 93. 93, au niveau des violences conjugales, c'est. Voilà, je veux dire, ils sont quand même beaucoup plus sensibilisés parce que bah, c'est le. Alors, il y a le plus haut taux de violences conjugales, mais ça ne veut peut-être pas dire que c'est là où il y a le plus de violences, c'est simplement qu'on en parle plus aussi et qu'elles sont plus détectées, parce qu'il y a un gros travail qui est fait, etc. Et comme il avait du sursis pendant. Il avait du sursis, il avait eu. Je sais plus, enfin, je ne me rappelle plus, ça date un petit peu, mais en tout cas, il avait du sursis. Donc pour moi, pendant 5 ans, s'il y avait quoi que ce soit, il allait directement en prison. C'est pour ça que je n'ai jamais osé reporter plainte, parce que c'était le problème de ma fille, après de mon fils. Et c'est quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, ma troisième grossesse, bah, le jour de mes 30 ans, tu vois. Bon, cadeau, un jour de 30 ans, il m'a refrappée. Et pour moi, c'était clairement la fois de trop. Et là, j'ai dit, bah, je peux plus, c'est plus possible. Et là, j'ai reporté plainte. Donc, j'ai eu la chance. Bah, il est passé comme la première fois en comparution immédiate. J'avais eu, enfin, non, peut-être, si, quelques temps après, bah, en tout cas, je faisais partie, c'était dans les débuts de l'ordonnance de protection. Ça, c'était parce que c'était en 2005, c'était vraiment dans les prémices. Et moi, j'avais donc le juge avait fait sortir du domicile conjugal, interdiction de m'approcher, de venir au domicile et de me contacter. On a demandé d'être jugé, il a été jugé assez rapidement. Et voilà. Donc, en fait, et après, là, ça a été définitif. Et moi, j'ai eu cette chance, bah oui, d'être accompagnée. Alors après, voilà, j'ai été toquée aux portes, etc. aussi, hein, tu vois, j'allais beaucoup, genre, à Bondy, à SOS Femmes, où j'ai fait pas mal de choses parce que, bah, il faut te reconstruire après. Quand tu as été complètement fracassée, quand on t'a tué de l'intérieur.
Humilié, tué de l'intérieur, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est ça.
Lumière, on t'a, enfin, tu vois, j'étais plus lumineuse. Déjà, je pouvais pas faire ce que je voulais quand je voulais. Il fallait toujours faire en fonction de comment il allait réagir.
C'est ça.
Et puis tu savais, parce que d'une
Tu
fraction de
vivais dans la peur, constamment dans la peur.
un moment joyeux, en une fraction de seconde, il pouvait basculer.
Oui, c'est ça.
Un truc qui ne lui plaît pas, un truc, bim, ça pouvait basculer. Donc en fait, c'est un truc, ça, c'est
Et
juste un
puis
truc
tu
à.
lui donnais beaucoup d'excuses. Tu disais, quand il revenait gentiment, tu donnais des excuses qui permettaient un peu après d'être encore dans la phase idyllique.
Même pas, tu sais, moi, après, je trouve qu'il n'y avait plus tellement de lune de miel avec lui. Hein. Tu sais, après,
Non,
quand
il n'y a plus
l'emprise,
de
elle est
lune.
tellement.
Apparemment, justement, les périodes de lune de miel diminuent au fil des années.
On sait que tu bouges pas. Mais c'est même pas au fil des années, parce que moi, je suis pas restée si longtemps que ça avec lui. En fait, à partir du moment où il y a une emprise qui est telle, on sait que tu bougeras pas. Alors oui, quand ça commence à bouger un peu, on essaie de se calmer un petit peu, nanana. Mais après, tu sais, ils savent que de toute façon, ça bouge pas.
Donc là, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es séparée?
18 ans, c'était le
18
jour de
ans.
mes 30, 48, j'en ai 48, donc
Voilà. Non,
oui.
mais c'est vrai que nos auditeurs n'ont pas entendu quand on était en aparté. Donc 48, 18 ans. Donc là, tu as des grands-enfants qui bah, sont sûrement heureux que leur maman a repris le lead de sa vie.
Alors eux, ils n'ont pas de souvenirs parce que bah, ils étaient trop petits, ils n'ont qu'un souvenir. Et après, Bon, y avait, moi, je pensais que c'était de la bonne intelligence, mais en fait, c'était juste parce que on faisait des choses, on faisait plein de choses ensemble. J'allais dans mon ex-belle-famille. Enfin, voilà, tout le monde disait, c'est une bonne séparation. Mais non, parce que c'était toujours en fonction de lui, en fait. Et il y avait quand même des crises, il y avait quand même des trucs, il y avait toujours du contrôle, en fait. Et voilà. Et là où je me suis rendu compte, donc, c'est en discutant avec d'autres personnes, c'était en me documentant, etc., pour le livre que je suis en train d'écrire, je me suis rendu compte qu'en fait, les violences conjugales avaient duré 21 ans, et non, comme je comprends. Et ça, c'est violent. Ça m'a vraiment, ça m'a piqué fort. Mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Donc, tu vois,
En fait, on dit
ce
toujours qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres, que final, regarde, enfin, voilà, il faut trouver un peu de gratitude dans les événements traumatiques. Aujourd'hui, tu es une femme accomplie qui a écrit un bouquin, qui mène des conférences pour pouvoir justement aider d'autres femmes, et c'est juste puissant. Donc, c'est ça, c'est en ça qu'on se dit, waouh, j'ai vécu ça, mais quelque part, je peux maintenant, en m'étant relevée, éclairer et apporter de la lumière à d'autres.
Exactement. Et puis, bon, c'est clair que c'est vrai, je m'en serais passée, on va pas se mentir. Mais je veux dire,
Ça, c'est clair.
c'est ce vécu qui m'a façonnée aussi, qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, la femme que je suis, mais je la kiffe en fait.
C'est beau ce que tu dis. On est là dans l'estime de soi, là, dans le podcast, estime de soi. Merci de nous dire ça.
Parce que survivante, parce que beaucoup plus forte et beaucoup plus forte que jamais, plus forte que jamais même. Et avec plein de projets, avec beaucoup d'entraide, beaucoup de voilà, moi je crois beaucoup à la sororité, c'est une valeur à laquelle je suis très attachée. Voilà, on peut faire tellement de choses ensemble, tellement.
Je suis tellement d'accord avec ça. Et aujourd'hui, bah justement, on parle d'entourage, donc tu parles de sororité. Je pense que tu t'es construit un entourage qui t'aide justement à activer toutes les choses que tu as envie de mettre en place.
Bien sûr, oui.
Ouais. Tu voulais nous dire quelque chose par rapport à ça? Enfin, tu es dans des associations de violences faites aux femmes, notamment?
C'est ça, je suis bénévole engagée dans l'association Imani. Et voilà, et on fait plein de choses. Là, tu vois, par exemple, on s'est formé à la fresque du sexisme. Donc, on va intervenir dans les collèges, dans les lycées, aussi peut-être dans les entreprises, en fait, pour sensibiliser. Moi, aujourd'hui, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de libérer la parole des femmes qui sont victimes. Parce qu'en fait, les choses, elles changent à partir du moment où on
Où on
commence à...
parle.
Voilà.
On est
Et moi,
d'accord.
c'est ça ma bataille. C'est moi, quand j'ai commencé à parler, alors je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, ça prend parfois du temps, il y a des allers-retours. Moi, j'en ai fait plusieurs des allers-retours avant de quitter pour de vrai.
D'accord, j'ai fait pareil.
C'est pas des faux départs, il y en a qui appellent ça des faux départs. Non, ce n'est pas un faux départ, c'est un aller-retour. On a besoin de cheminer, c'est compliqué, il faut prendre conscience. Comme on a dit, l'emprise, c'est quelque chose de très fort. Il faut en prendre conscience. Et pour ça, il faut pouvoir prendre du recul. Il faut pouvoir aussi se réparer, se restaurer. Parce que, voilà. Mais ça, c'est possible. Donc, oui, là, je. Il suffit de. Voilà. Un contact, une personne peut changer une vie, mais vraiment, clairement.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Et là, je voulais aussi qu'on évoque, on a parlé de ton parcours, on a parlé d'estime de soi, on a parlé d'entourage. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire davantage sur toi ou une phrase peut-être qui t'aide au quotidien?
Alors, il y avait moi, ce que la connaissance est un pouvoir. Ça, c'est vraiment important parce que la connaissance, parce que déjà, connaître ses droits, savoir ce qui est légal ou pas, déjà, dans ces problématiques de violence, c'est important. Connaître ses droits, on sait que ça, c'est pas normal. Ça, enfin, c'est pas normal, c'est punissable par la loi. Donc, déjà, savoir, connaître, c'est vraiment un pouvoir.
Du coup, tu as un autre mantra à nous partager?
Alors, ce n'est pas tant un mantra, c'est une phrase qui m'inspire beaucoup et qui prend vraiment plus tout son sens de plus en plus. C'est une citation de Mandela, de Nelson Mandela, qui disait, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant.
C'est
Et
beau ça.
cette situation, elle me parle beaucoup parce que j'ai beaucoup de retours de lecteurs qui me disent que voilà, ça, le livre ça a vraiment résonné, ça les a inspirés, ça leur fait penser à, enfin, en miroir, beaucoup, beaucoup de miroirs. Donc ça, c'est très, très important. Et c'est surtout avec cette notion de lumière, ça me montre, moi, ce que je fais déjà depuis déjà pas mal de temps. Et là, c'est pour le coup vraiment un mantra pour moi, c'est oser, c'est réussir.
J'adore.
Si, c'est vraiment oser, c'est réussir. Parce que moi, je pars du principe, des fois, on me dit... Sandrine, voilà, moi je suis quelqu'un de culotté. Moi je dis, il faut avoir de l'audace. Il faut être culotté, il faut avoir de l'audace.
N'est-ce
Parce
pas?
que
Sinon, tu ne serais
si
pas sur ce
vous...
podcast aujourd'hui.
Déjà, voilà, parce que je suis venue te voir. Coucou, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on fasse un podcast. Bah, c'est ça. Et je
J'adore.
sais qu'il y a des gens qui n'osent pas faire ça. Ils me disent, Sandrine, t'es culottée. Mais ouais, je suis culottée, mais bien sûr. Parce que si tu ne demandes pas, tu n'auras jamais. Là, regarde, je veux faire un truc.
Demandez, vous
Tu...
recevrez. Ça, c'est autre chose, d'accord.
Exactement. Tu peux m'aider peut-être sur quelque chose. Donc, je vais te demander, si tu me dis non, bon, bah, c'est pas la fin de la vie, tu vois. Je ne vais
On
pas. Je vais
va
pas...
pas mourir, hein.
Ouais, en fait, je ne perds pas, je ne recule pas, je reste à la même place. Mais si tu me dis oui, peut-être qu'il y a plein de trucs qui vont changer, tu vois. Donc, en fait, oser, c'est réussir, mais vraiment. Donc, moi, je pars. Il faut demander, il faut vraiment oser. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Enfin, je voulais qu'on parle aussi un petit peu parce que c'est quelque chose qui change aussi la donne pour moi. Quand je disais tout à l'heure, la connaissance, c'est le pouvoir. Et c'est vrai. Et ce qui est très, très puissant également, c'est de se connaître. Déjà, c'est Socrate qui disait ça. Moi, j'aime bien les citations, tu vois, je trouve ça très inspirant.
On est pareil.
Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Parce que si tu te connais, tu vas savoir
Ce que tu
travailler
veux et ce
sur
que tu ne veux
tes
pas.
failles, etc. Tu connais tes points forts, tu connais tes points faibles, tu connais tes failles, tu sais ce que tu as. On a parlé pas mal de violence, etc. Les personnes toxiques comme ça, les bourreaux, il y a cette faille qui s'engouffre dans les failles, dans nos traumas, dans nos blessures, etc. Quand tu te connais, tu peux travailler là-dessus. C'est savoir être vraiment faire un gros travail d'introspection. Et puis, c'est surtout de reprendre sa responsabilité de femme libre. Et ça, c'est important. Chacun doit reprendre sa responsabilité et ne plus laisser la place à ça. Et surtout, donc en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le human design, parce que c'est le mode de fonction. En fait, moi, je trouve ça juste génial, c'est ton mode de fonctionnement à toi. C'est unique à chaque personne. Et c'est tellement vrai. Et tu vois, bon, la lumière chez moi et qu'elle revient quand même. Et parce que bah, moi, je suis projecteur, donc guide, etc. Et en fait, plus ça va et plus ça prend son sens. Et aujourd'hui, je suis dans un nouveau chemin. En aidant les autres, bah, moi, j'ai avancé de fou. J'ai travaillé sur moi mais énormément. Et je pense que j'ai progresser, enfin voilà, clairement aujourd'hui, Sandrine, je ne suis plus la même Sandrine qu'il y a 6 mois, il y a un an, clairement pas.
Moi, je pense que aussi le fait de travailler sur toi, tu incarnes la personne que tu deviens, en fait. Tu l'incarnes parce que
Ouais.
tu travailles sur toi, et en même temps, ça te permet, en fait, de rejaillir une certaine lumière que d'autres voient en toi. Et en fait,
C'est
ta
ça.
propre guérison aide l'autre à guérir. Parce que
Exactement.
finalement, toi-même, tu guéris en aidant les autres, parce que tu guéris en allant chercher les connaissances, en allant te documenter. Tu as écrit, donc tu documentes, et donc ça te fait réfléchir. Et ça t'aide à guérir, et toi tu apportes cette plus-value à d'autres qui se disent, ah ouais, c'est comme ça. Donc tu guéris, les autres guérissent. C'est beau ça.
Et les retours que me font les lecteurs, etc., en fait, c'est un truc qui me nourrit, tu vois.
Ça
Tu
nourrit
vois.
et ça renforce la cime, mais ça se dit, tu te dis, je suis à ma place.
Clairement.
Je
Et je
suis à
suis à
ma
ma place.
place.
Et ma place, je la lâche pas, tu vois. Parce que Parce que c'est, je sais que je suis sur le bon chemin. Tu sais, quand tu es sur le bon chemin, c'est pas compliqué, tout s'ouvre. Quand
Exactement.
tu es aligné, tout s'ouvre. Les rencontres, les bonnes, tout se fait de façon fluide. Et mon livre, il met en. Tout s'est décanté, mais un truc de malade mental. C'est un truc de dingue. Et voilà, donc moi, je suis très confiante là-dessus, il n'y a pas de problème. Et surtout, de travailler sur soi, de vraiment, d'avoir repris confiance en soi. Moi, on va dire, la chose qui m'impacte vraiment, c'est qu'aujourd'hui, avec cette notion de lumière aussi, ça veut dire que j'apprends aussi, j'ai accepté aussi ma part d'ombre. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a de la
On est
lumière, mais il y a aussi de l'ombre.
d'accord,
Tu sais, il y a
bien
toujours ces
sûr.
côtés, etc. Et
Yin
aujourd'hui,
et
oui,
yang, il faut
exactement.
juste pouvoir les assembler.
Exactement. Et du coup, bah voilà, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Je suis parfaitement imparfaite et c'est parfait comme ça.
Ah, c'est tellement beau que j'ai envie de finir comme ça.
C'est une super chute.
On a encore tellement de choses à dire, mais je pense que ça pourrait durer 2 heures, 3 heures. D'ailleurs, de toute façon, on a moins de ça d'enregistrement, mais en aparté, vous inquiétez pas qu'il y a plus que ça.
Ah bah oui, largement.
Largement 2 heures, là. En tout cas,
Ouais.
merci, merci, merci Sandrine pour ce mot oser. D'ailleurs, je crois que je vais encore remettre un titre avec ce mot-là, ce qui nous parle à toutes les deux. Dis-nous où on peut te retrouver. Bien évidemment, je mettrai tout en description, mais dis-nous tout.
Alors, bah, on peut me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, TikTok. Après, on peut me contacter en privé sans problème. La prochaine intervention que je fais, c'est le 10 février avec Grâce Production pour une causerie femme. Donc, justement, j'interviendrai sur les violences conjugales. Je ferai une dédicace de mon premier livre et j'annoncerai justement le deuxième livre qui va sortir en 2024. Donc voilà, il y a plein, plein de choses qui se mettent en place. Et ça, ça me tient à cœur parce que l'année dernière, je faisais partie du public de cette causerie et cette année, je suis contente d'être de l'autre côté.
C'est génial. Donc restez connectés, allez la suivre sur Instagram pour avoir les informations sur cet événement du 10 février. Et nous vous disons à très vite pour un nouvel épisode. Merci
Belle
Sandrine.
soirée!
Au revoir. Au revoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais également, vous pouvez me suivre sur mon Instagram. C'est Tina Coppa. Je vous dis à très vite au prochain épisode.